Ce podcast est soutenu par Villa Finder, spécialiste de la location de villas de rêve en Asie, reconnu pour son approche très qualitative, garante de séjours réussis. Un service de conciergerie est disponible avec chaque location pour vos envies de massage, babysitter ou dîner à la villa par exemple. Bref, vous pouvez compter sur eux pour l'organisation de votre prochain voyage en Asie et n'oubliez pas de mentionner sur les routes de l'Asie lors de votre réservation car non seulement un arbre sera planté à cette occasion et vous profiterez d'une réduction spéciale de $50 sur le montant total. Retrouvez-les sur villa-finder.com et merci à eux. Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 64, l'aventure responsable à Siargao et Palawan. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et je suis très content d'accueillir aujourd'hui dans le podcast Christine Amour-Levard, que j'ai pu interviewer en personne à Singapour et qui va nous parler de deux récentes aventures qu'elle a menées dans le cadre d'une de ces deux associations venant en aide aux femmes dans le monde. Un magnifique projet dont je suis heureux de faire l'écho dans l'émission. C'est un type d'aventure et de tourisme différent, vous allez voir. Et c'était aux Philippines, dans deux régions faites d'îles paradisiaques, à Siargao et Palawan. Alors bienvenue encore et mettons ensemble le cap avec Christine aux Philippines. Eh bien bonjour Christine, bienvenue sur les routes de l'Asie.
Bonjour Romain, merci de m'avoir invité.
Écoute, c'est un grand plaisir de t'interviewer aujourd'hui. En fait, ça fait plus de 5 ans que je crée sur les routes de l'Asie. Et récemment, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas encore interviewé Christine? Parce qu'en fait, on se connaît déjà un petit peu. Tu habites comme moi à Singapour depuis encore plus longtemps que moi. Et on a une amie en commun qui est Valérie Boffy, que j'ai interviewée dans le podcast déjà sur son ascension de l'Everest. Pour toi, c'est même plus qu'une amie, c'est aussi celle qui a cofondé avec toi Women on a Mission. On va reparler plus tard aujourd'hui. Mais surtout, tu as un parcours vraiment extrêmement intéressant de par tes différentes activités. Donc, tu es active dans plein de domaines. Tu travailles dans le marketing, je vais te laisser un peu expliquer ton parcours, mais tu es aussi philanthrope, aventurière. Et donc, tu as fondé deux associations caritatives qui viennent en aide aux femmes dans le monde entier sur différents aspects. Donc, j'ai déjà un petit peu répondu à la question, mais parle-nous un petit peu de ton parcours et de ton background et ce que tu vis ici à Singapour.
Oui, en effet, ça fait quelques années que je suis à Singapour. Ça fait 13 ans, plus de 13 ans que je suis à Singapour. Je suis arrivée pour travailler dans le marketing du sport. J'ai commencé, quand je suis arrivée, j'étais en charge du marketing pour Nike à Singapour et aussi au Vietnam. Une compagnie pour laquelle j'ai travaillé presque 10 ans dans différents marchés, aux États-Unis, en Amérique du Sud, même en France. Et depuis j'ai fait certaines choses un peu différentes. J'ai quitté Nike après quelques années. J'ai ouvert une boutique en fait de mode brésilienne sur Orchard Road, car j'adore le Brésil. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais avec Nike là-bas, donc j'ai toujours voulu travailler avec le Brésil. Donc pendant presque 3 ans et demi, j'avais une boutique de mode. J'importais des habits de Rio et de São Paulo, et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Je faisais beaucoup d'événements, des défilés de mode, des événements marketing, etc. Et après quelques années, j'ai rencontré une femme exceptionnelle que tu connais très bien, Valérie Boffy. C'était une amie que je voyais de temps en temps à l'école française, parce qu'on avait des enfants ici à l'école française de Singapour. Elle m'avait toujours attirée parce qu'elle est très sportive et moi j'adore le sport. J'ai aussi, comme Valérie, grandi en faisant beaucoup, beaucoup de sport. Un jour donc on parlait et elle me dit je vais partir pendant 7 semaines en fait. Donc moi tout de suite j'ai pensé quelle chance, elle va peut-être être en vacances pendant 7 semaines, elle va peut-être partir à Saint-Tropez ou un truc comme ça. Et en fait elle me dit non, pas tout à fait, je vais essayer de gravir l'Everest. Et ça m'a vraiment fait une très très grande impression. Tu sais, quand je suis arrivée à Singapour, Romain, j'étais séparée, je me suis divorcée, j'ai passé un moment très difficile dans ma vie, j'avais 2 jeunes enfants. Et en fait, les montagnes m'ont donné beaucoup de courage et beaucoup de force. Et à chaque fois que j'avais des vacances et que je pouvais laisser les enfants avec mon ex-mari, je partais dans l'Himalaya, je partais à gravir les montagnes. Certainement pas aussi hautes que l'Everest, mais j'ai passé beaucoup de temps dans les montagnes. Et donc, quand j'ai rencontré Valérie, une femme qui avait énormément de courage. Ça m'a vraiment donné envie de suivre son ascension, qu'elle a réussi avec beaucoup de courage et beaucoup de talent. Et au sommet donc de l'Everest, quand elle est arrivée, et tu connais bien l'histoire, elle avait avec elle un drapeau pour une charité qu'elle avait travaillé pour en tant que volontaire pendant 7 ans à Londres. Et sur ce drapeau, en fait, en anglais, il y avait marqué "Bearing the flag for women everywhere". Donc, c'était un drapeau pour toutes les femmes dans le monde. Et quand elle est revenue à Singapour, elle m'a expliqué le travail de cette charité qui aide les femmes qui vivent dans les zones de guerre, de conflit. Et pour moi, ça a été un moment très important parce que j'ai senti que voilà, c'est quelque chose que je voulais m'associer avec elle pour faire. Et ensemble, donc on a cofondé absolument, comme tu as dit, Women on a Mission. Et donc notre premier trek, on a recruté 9 femmes et on est allé au camp de base de l'Everest. Et avec ce trek et 2 événements, nous avons levé 150 000 $ Singapour pour cette charité. Et donc c'était le début de notre histoire ensemble avec Women on a Mission. Et aujourd'hui, presque 7 ans après, nous sommes en pleine préparation pour notre 10e expédition en Papouasie, que tu sais bien, parce que c'est avec Thierry Robinet, un homme extraordinaire, qui nous organise donc cette expédition qui va se passer en novembre 2019. Et entre-temps, avec tous nos partenaires et nos volontaires et nos teammates, comme on les appelle, on a réussi aujourd'hui à lever plus de $1 million Singapour pour différentes charités qui viennent en aide donc aux femmes qui sont dans des zones de conflit et de guerre, ou des femmes qui ont eu des expériences de violence dans différentes parties du monde. Donc c'est une très très belle expérience que j'ai eu la chance de vivre et que je continue de vivre avec un très grand plaisir, et ça m'ouvre tellement d'opportunités et tellement de manières de grandir, si tu veux, et d'apprendre. Voilà, donc ça c'était le début de l'histoire de Women on a Mission. Et donc c'est intéressant parce que quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une autre Française extraordinaire que d'ailleurs tu devrais interviewer, une très très bonne amie qui s'appelle Sandra Maréchal, parce que j'avais entendu parler d'une Française à Singapour qui était partie en Antarctique avec un aventurier qui s'appelle Robert Swan. Et donc je la connaissais pas, j'ai essayé de trouver une manière de la contacter, et ça c'était en 2017. Hein. Et j'ai réussi à la rencontrer, on s'est vu pour un verre. Et le jour où on s'est rencontrés, c'était très intéressant parce qu'il pleuvait et on était sur le toit de son bâtiment. Elle travaille pour Facebook en fait. Et donc la pluie s'est arrêtée et il y avait un très bel arc-en-ciel en fait. Et à ce moment-là, donc elle m'a parlé de son expérience en Antarctique, et ensemble, cette soirée-là même, on a décidé de retourner, pour elle, retourner en Antarctique, et pour moi donc d'aller en Antarctique pour la première fois. Et ça a déclenché en moi une idée en fait. C'était de créer une deuxième association caritative que j'ai nommée Her Planet Earth, avec Sandra comme partenaire et d'autres partenaires aussi. Qui avait pour but, si tu veux, de soutenir et de venir en aide aux femmes défavorisées, mais qui sont touchées par le changement climatique. Parce que quand j'ai commencé à faire de la recherche sur ce qui se passait dans l'environnement, avec tous les changements dans notre planète, le changement climatique, dégradation, j'ai réalisé que les gens les plus touchés sont souvent les plus pauvres, et que la majorité des gens pauvres dans le monde sont souvent des femmes. Et donc pour moi, en continuant, si tu veux, mon expérience avec Women on a Mission, je suis très passionnée d'aider les femmes, et c'est quelque chose pour moi qui est très très important dans ma vie. Mais sans si tu veux prendre de l'attention de Women on a Mission, qui est très focalisée sur aider les femmes qui souffrent d'abus physiques, sexuels, etc. J'ai voulu créer quelque chose d'autre avec d'autres partenaires, en fait, pour donner de l'attention et pour lever des fonds aussi pour ces femmes touchées par le changement climatique. Et donc ça, c'était la naissance de Her Planet Earth, avec un premier voyage en Antarctique, en fait. Un très, très beau voyage où nous sommes allées 6 femmes. Il y avait 4 à Singapour et d'autres dans d'autres parties du monde. Et nous avons eu la chance de gravir des montagnes qui n'ont jamais été gravies par d'autres personnes avant, dont deux montagnes qu'on a eu la chance de nommer après, pendant cette expérience en Antarctique, en janvier 2018, en fait. Voilà.
Bah, fabuleux. Bah, si l'Antarctique était en Asie, j'aurais été heureux de t'interviewer sur cette aventure-là. Mais aujourd'hui, on va rester en Asie ensemble et on va aller aux Philippines. Et ce qui est super, c'est que on va pouvoir parler de deux expéditions que tu as fait récemment là sur les derniers deux ans. Et on va pouvoir aller aux Philippines. Et ça fait un bel écho à ce que tu viens de nous dire, puisque ces deux expéditions dont on va parler, tu les as fait dans le cadre donc de Her Planet Earth. Et voilà, les Philippines, c'est un pays dont on n'a pas trop parlé dans le podcast encore, donc je suis content qu'on continue à en parler. J'avais fait un épisode précédemment avec un autre invité sur Palawan et Corot déjà un petit peu, mais là aujourd'hui ensemble, on va aller plus dans l'aventure. On va reparler à nouveau de Palawan et d'une autre île qui s'appelle Chargao, qui est peut-être un peu moins connue, en tout cas, hormis les surfeurs, mais c'est peut-être un peu moins connu. Et on va s'y arrêter, on va partir à l'aventure avec toi. Tu vas un peu nous raconter ce que tu as fait là-bas, ce qu'on peut y voir quand on aime l'exploration, quand on aime l'aventure. Mais avant de commencer par Chargao, explique-nous quand même le lien que tu as avec les Philippines, qui est évident, mais il faut quand même l'expliquer aux auditeurs.
Bien sûr. Donc moi, j'ai eu la chance d'être née aux Philippines. Ma maman est philippine, elle vient de Manille, et mon père en fait est français et suisse. Et mes parents se sont rencontrés aux Philippines il y a dans les années 70. Et en fait, mon père est venu pour travailler pour une compagnie suisse dans le transport maritime. Et est tombé amoureux de ma maman, qui avait déjà vécu en France et qui parlait très bien français parce qu'elle avait étudié en fait à la Sorbonne. Et à ce moment-là, elle travaillait pour Air France, donc il y avait toute une communauté française. Et son patron à ce moment-là était un homme qui a aussi fait la guerre d'Algérie avec mon papa. Donc c'était un groupe, si tu veux, de copains, etc. Et donc mes parents se sont rencontrés comme ça. Quelques années plus tard, je suis née à Manille. Et les Philippines, si tu veux, pour moi, c'est un pays qui me touche beaucoup, mais très très près de mon cœur. J'ai eu la chance plus tard de vivre en France entre 5 et 10 ans. J'ai vécu en France. Mes parents sont partis en France pour quelques années pour commencer un nouveau business, si tu veux, là-bas pendant quelques années. Mais nous sommes revenus. Et donc, moi, j'ai grandi jusqu'à 18 ans après, de 10 à 18 ans, aux Philippines. J'étais à l'école française de Manille. J'ai plein de copains qui sont comme moi, françaises, philippines. On avait tout un groupe de copains francophones aux Philippines, dont même souvent des gens les Daboville, les frères Daboville, tu sais, qui étaient des gens qui ont passé beaucoup de temps sur l'océan, bien sûr. Et moi, comme mon papa était dans la marine, si tu veux, c'était un fusilier marin pour la France pendant la guerre d'Algérie. Donc, on avait tout. J'ai grandi en fait sur des bateaux. Mon papa naviguait beaucoup, avait des voiliers aux Philippines. On avait la chance d'avoir une petite maison à la plage en dehors de Manille. Donc, c'était une très très belle enfance, si tu veux. Même si les Philippines a eu plus tard, quand j'étais dans l'adolescence, en fait, beaucoup de changements politiques. Il y a eu des changements de gouvernement. Tu as certainement entendu parler de People's Power avec le changement, le coup d'État, si tu veux, qui a sorti Marcos, le président Marcos des Philippines. On a vécu tout ça. Et c'est marrant parce que maintenant, quand je suis aux Philippines et je suis à Singapour, j'ai 4 enfants ici, les gens me disent, mais il ne se passe pas grand-chose à Singapour. Parce que c'est vrai que comparé aux Philippines, où on avait les typhons, les tremblements de terre, les coups d'État, tout ce que tu pouvais imaginer, on a eu cette expérience. Donc c'était une vie assez intéressante, si tu veux, pour dire aux Philippines. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents dans les îles. Et donc, quand j'ai créé Her Planet Earth, et c'était vraiment focalisé, donc, bien sûr, sur tout ce qui est changement climatique et tout ça, j'ai pensé tout de suite aux Philippines. Et ça, c'était pour moi tout à fait logique. J'adore passer du temps dans les îles. Aux Philippines, on a plus de 7000 îles, comme tu sais peut-être. C'est un pays magnifique, mais qui souffre aussi de tout ce qui se passe en ce moment. Il y a une grande pollution de plastique, comme tu sais certainement. Donc, il y a beaucoup à faire. Et pour moi, en fait, c'est un pays que je continuerai à amener des équipes féminines aux Philippines avec Her Planet Earth, parce que premièrement, j'aime beaucoup les Philippines, c'est mon pays de naissance, comme tu sais, et je pense qu'il y a beaucoup de NGO qui font des choses vraiment très intéressantes. Donc je vais commencer par te parler de notre voyage à Siargao. Donc Siargao, c'est une île qui, si tu veux, la capitale du surf aux Philippines. Et c'est une île que pas tous les Philippins connaissent. Maintenant, ça commence à être un peu plus connu. Il y en a qui disent que ça va être le nouveau Boracay, mais on espère justement que ce ne sera pas ça dans le côté pollution. Mais c'était quand même une zone que le gouvernement philippin a décidé de protéger et nommer zone, si tu veux, de protection environnementale. Et donc, j'avais très, très envie d'aller là-bas et d'amener une équipe. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai recruté une équipe de 14 femmes. C'était en fait il y a un an à peu près. Et nous sommes donc tous, presque toutes venues de Singapour. Il y en avait quelques-unes qui étaient à Manille aussi, qui nous ont retrouvées à Siargao. Et on est tous venus pour apprendre à faire du surf. Il y en avait une ou deux qui savaient faire du surf déjà. Et on est, donc c'était le challenge qu'on s'était mise en place, et on a tous passé quelques jours, une semaine en fait, à Surigao, à apprendre à faire du surf. On a fait du stand-up paddleboard. C'est une île vraiment fantastique, magnifique, et je recommande à tout le monde d'aller visiter Surigao avant qu'ils construisent leur aéroport international, parce que apparemment ils vont créer un aéroport international très bientôt, ce qui va tout changer, si tu veux, dans l'île. Pour l'instant, pour arriver à Surigao, il faut passer par Mani au Cebu, changer d'avion et après arriver à Surigao. Donc à Surigao, après, il y a un groupe d'îles en fait. C'est pas qu'une île, il y a un groupe d'îles. Il y a énormément de choses à faire. Il y a des mangroves, il y a des crocodiles, il y a des plages magnifiques, il y a des lagons à visiter. Tu peux vraiment faire du stand-up paddleboard, tu peux faire du bateau, du kayak, tout ce que tu veux, de la plongée sous-marine bien sûr. Et surtout le surf. Donc il y a un endroit à Surigao qui est très connu des surfers du monde entier. En fait, ils ont des compétitions globales qui se passent maintenant là-bas. Ça s'appelle Cloud Nine. Et ça a été découvert à l'origine, dans les années 90, en fait, par des surfeurs californiens qui sont venus, des backpackers, tu sais, qui sont arrivés aux Philippines et qui ont découvert cet endroit idyllique. Et donc maintenant, n'importe qui peut bien sûr y aller, et c'est très sympa en fait. Donc si tu es pas quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le surf, tu peux même prendre avec toi pour quelques dollars, si tu veux, ce qu'on appelle un surfing nanny ou une nounou de surf, si tu veux, qui va t'aider dans les vagues, qui va te guider en fait, et qui va même appuyer sur le GoPro quand t'es prêt à faire du surf. Donc on a beaucoup aimé notre expérience là-bas, et en fait on a aussi levé des fonds pour une association caritative basée à Surigao qui s'appelle Sea Movement, qui fait beaucoup de choses fantastiques pour conserver l'île de Surigao. Et donc nous avons soutenu et levé des fonds pour un projet très intéressant qui aidait les femmes défavorisées de l'île de Surigao à apprendre à recycler le plastique qu'elles trouvent sur les plages et autour de l'île, et apprendre à faire des sacs à main donc avec ces matériaux, et pour pouvoir ensuite les vendre dans les boutiques des hôtels qui commencent à être construits sur l'île, pour pouvoir en fait aider leur vie d'une manière économique aussi, mais en même temps, si tu veux, en essayant d'encourager le recyclage.
D'accord, parce qu'en fait, oui, on connaît assez peu toutes ces îles de cet archipel, que ce soit les Philippines ou un autre archipel en Asie, l'Indonésie, et on ne sait pas trop comment ces gens vivent en fait, parce que ce qu'on voit à la télé, bien sûr, n'est jamais trop la réalité des lieux. Quel est en fait le système économique local, puisqu'on on pourrait se dire peut-être comme ça, c'est peut-être des gens qui vivent de la pêche. Tu parles de venir en aide aux populations locales. Comment se déroule la vie en fait là-bas au quotidien? Comment ces gens-là vivent en fait dans ces petites îles perdues du bout du monde?
Très bonne question. Écoute, dans une île comme Surigao, il y a un petit peu d'agriculture bien sûr, mais pas énormément. C'est une ville qui est quand même très touchée par les typhons, parce que géographiquement où elle est placée, et c'est pour ça que les vents sont si favorables pour le surf en fait. Donc ils sont souvent touchés tous les ans en fait par des gros typhons. Il y a bien sûr un petit peu de tourisme maintenant, et bien sûr de la pêche, mais en fait ce sont des populations très pauvres en fait, qui n'ont pas énormément de possibilités. Souvent elles quittent l'île pour aller justement à Cebu, dans l'île, la plus grande ville si tu veux à côté, pour trouver du travail, et souvent que les familles, les jeunes partent en fait et quittent l'île pour ça. Donc si tu veux, maintenant que le tourisme est arrivé, il y a beaucoup d'opportunités pour eux, mais bien sûr le grand dilemme c'est comment conserver cette île pour qu'elle ne soit pas polluée, parce que même tout ce qui est, si tu veux, l'irrigation, les décharges, etc., tout n'est pas vraiment mis en place comme il faut. Donc le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut, mais c'est un vrai problème en fait, pour l'île en ce moment, et une inquiétude très sérieuse pour les populations qui vivent là-bas. Et donc cette organisation Sea Movement a été créée par des gens qui vivent là-bas, qui travaillent en tant qu'instructeurs de surf ou dans les hôtels, et ça, parce qu'ils ont une vraie inquiétude envers la protection de cette île, qui est vraiment magnifique et qui mérite d'être protégée.
Et à ton avis, qu'est-ce qui pourrait permettre d'éviter justement que Surigao devienne ce qu'a été Boracay? Alors là, récemment, Boracay a fermé pendant quelques mois, je crois 6 mois, justement pour prendre soin de l'île et un peu effacer les effets néfastes du tourisme de masse, parce que c'est une île extrêmement fréquentée. Qu'est-ce qui, à ton avis, allez, si on est optimiste, pourrait éviter à Surigao le même sort?
Oui, donc ça, c'est en fait, je pense qu'il faut une combinaison de choses. Il faudrait vraiment un contrôle du nombre de touristes. Donc, en fait, avoir un aéroport international, c'est vraiment pas l'idéal du tout. Donc, j'espère qu'ils vont pas le construire, mais je pense qu'ils vont le faire quand même, parce qu'il y a beaucoup de business derrière qui veulent avoir cette ouverture, si tu veux. Après, bien sûr, mettre des règles en place. Donc, le gouvernement doit absolument continuer leur travail pour mettre en place des règles sur les déchets, comment on se débarrasse des déchets, etc. Que ce soit pas juste jeté dans des, comme tu sais, dans des montagnes comme on est à Manille, en fait. Et en fait aussi, une troisième partie, c'est vraiment avoir des tourismes et encourager le tourisme responsable, qu'on appelle responsible tourism, comme on dit en anglais, où vraiment, par un choix, nous-mêmes, les touristes, on peut soutenir certaines activités ou organisations qui sont justement responsables dans leur manière de conduire leurs affaires à Sirgau. C'est un travail qui doit être en partenariat avec tous les membres, en fait, qui sont en contact avec l'île, finalement. C'est pas une solution facile à trouver.
Oui. Et alors, à quel point ton association Her Planet Earth va contribuer à cela, puisque tu as parlé du fait que ça venait en aide aux femmes, notamment victimes du changement climatique. Et c'est vrai que le changement climatique dans ces pays-là, il peut être fatal, puisque les typhons existent depuis longtemps. C'est pas le changement climatique qui les a forcément importés, mais ça peut les renforcer, les rendre encore plus violents, encore plus néfastes. Comment ton association vient en aide à ces gens-là?
Donc, un des gros projets qu'on a en ce moment, c'est de travailler au niveau de l'agriculture, en fait. Parce que souvent, dans ces endroits, dans ces îles ou dans ces endroits loin de villes, les gens qui sont là sont souvent des femmes qui travaillent dans les fermes ou dans les champs, si tu veux. Parce que beaucoup d'hommes quittent les villages et partent dans les villes pour trouver du travail. Donc, un des gros projets qu'on a en place, en fait, et qu'on essaye aussi de voir dans les pays comme le Cambodge ou le Vietnam, qui sont un peu dans la même région, c'est de voir comment nous pouvons aider les femmes dans l'agriculture à apprendre de nouvelles techniques pour pouvoir réussir pendant ces grands changements climatiques. Par exemple, je te donne un exemple concret, c'est de temps en temps, selon le type de terre qui est sur cette île ou dans un autre pays, on recommande certaines graines, par exemple. C'est soit des cacahuètes qui peuvent être plantées plus facilement, qui n'ont pas besoin beaucoup d'eau, qui sont plus résistants, qui n'ont pas besoin de pesticides et qui peuvent être vendues en fait dans les marchés pour aider donc l'économie du pays en même temps. Donc ce sont ce genre de solutions qu'on essaie de soutenir à travers des NGO locaux, en fait.
Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip, qui me soutient dans le développement de ce podcast et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau en vivant des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Leur concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse, conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà une bien belle occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter de ma part, bien sûr, via leur site verylocaltrip.fr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative. C'est 100% validé par Sur les routes de l'Asie, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et moi, je les remercie pour leur soutien. Retour à l'interview. D'accord, ben c'est passionnant. Moi, je connaissais pas cette île, tu vois, avant de faire cette interview avec toi, donc ça me donne envie d'aller y faire un tour. Il y a tellement d'îles, de toute façon, hein, tu l'as cité, plus de 7000 îles aux Philippines, c'est sans fin. Il faudrait plus d'une vie, de toute façon, pour toutes les visiter. Mais c'est intéressant. Et maintenant, on va aller à Palawan. Alors là, c'est plus connu déjà, mais on va voir qu'on peut y faire encore des découvertes assez fantastiques. Tu y allais plus récemment, il y a quelques mois, pour une autre expédition d'une semaine, si je me trompe pas, en croisière sur un voilier. Donc parle-nous un peu de cette aventure, de ce voilier déjà. Je crois que c'est un voilier un peu particulier, et puis de ce que vous avez fait là-bas pendant une semaine, toujours avec de Her Planet Earth.
Alors ce voyage s'est passé donc en novembre 2018, il y a quelques mois seulement, et c'était une expérience fantastique. Nous étions 10 femmes, la plupart de Singapour, il y en avait une de Macao, une de Londres et une de Manille. Et nous sommes tous retrouvés donc à Manille, et nous sommes partis à El Nido d'abord, et on a retrouvé donc ce voilier magnifique, qui est un voilier unique. C'est le seul aux Philippines. C'est une reproduction d'un parao. Ça s'appelle un parao. C'est un voilier qui existait. Ce type de voilier existait aux Philippines il y a 1000 ans même. Donc c'est un grand classique, si tu veux, de la marine philippine. Et ça a été construit par des gens qui sont basés dans l'île de Palawan, avec beaucoup d'amour et beaucoup de temps. Ils ont passé du temps ils utilisent des techniques, si tu veux, traditionnelles de cette région. Donc le bateau était magnifique et en fait on a navigué pendant un peu plus de 5 jours dans les îles de Palawan depuis El Nido à Coron en suivant les vents si tu veux, et chaque soirée on arrivait dans une île différente. On n'était pas sûr selon les vents si tu veux, parce que l'itinéraire n'était pas rigide, parce que ça dépendait bien sûr des courants et des vents. Et chaque soirée, on arrivait dans une île nouvelle et on créait notre petit camp, sans électricité, bien sûr. Donc, c'était vraiment une expérience très Robinson Crusoe, si tu veux. Quelque chose que j'ai toujours voulu faire quand j'étais aux Philippines. Et on mangeait, donc on se nourrissait de tout ce qu'on pouvait trouver, ce qu'on pêchait, ce qu'on retrouvait sur les îles, des fruits, etc. Et c'est une organisation qui s'appelle Tao. Ils font ça depuis 10 ans. Ce sont des entrepreneurs philippins britanniques en fait. Donc je crois qu'il y a plusieurs partenaires et ils ont plusieurs bateaux. Mais le Parao, il y en a juste un. Il y a qu'un voilier Parao et le reste ce sont plutôt des bateaux moteurs, ce qu'on appelle des banca boats aux Philippines avec les pilotis, tu sais, sur chaque côté. Et donc cette expérience était vraiment très très unique parce que c'était un voyage où on savait jamais exactement par quelle île on allait passer. Il fallait vraiment respecter les courants, comme je te disais, et les vents. C'était silencieux, c'était magnifique. Et donc en fait, on a aussi visité une fondation que Tao a créée et dans les îles, qui, si tu veux, emploie plus de 200 personnes dans les îles. Donc c'est vraiment un exemple fantastique de ce qu'on appelle sustainable tourism. Donc non seulement les gens sur le bateau, sur le Parao, les marins qu'on avait avec nous, c'était des gens des îles, des locaux si tu veux, mais quand on arrivait dans les base camps, ce qu'on appelle les base camps où on dormait, il y avait bien sûr tous les gens locaux qui étaient employés par Tao et qui sont vraiment, ils font partie de cette famille, ils sont très proches, ils sont très famille, tout est fait à la main, tout est cultivé localement, et donc ces gens ont enseigné aux locaux à créer des jardins organiques si tu veux, parce qu'en fait à Palawan pendant plusieurs années il y a déjà eu beaucoup de problèmes de pêche si tu veux. Ils ont eu des problèmes il y a 20 ans où il y a beaucoup de pêcheurs, ils disaient la dynamique. Et donc, à cause de ça, il n'y a pas énormément de poissons qui restent dans l'eau. Et donc, une solution, bien sûr, c'est d'enseigner aux gens dans les îles de pouvoir faire pousser certains produits, certains fruits, certains légumes qu'ils peuvent, bien sûr, cultiver et vendre dans les marchés locaux. Donc nous, on s'est nourri de tout ça et on a eu cette expérience. Donc c'était très très bien fait. Donc ils ont enseigné aux gens comment planter certains produits qu'il fallait pas bien sûr brûler pour enlever l'herbe avant de planter, parce que eux ils savaient pas qu'en fait que si on fait ça constamment, après on a un problème de source d'eau. Et donc c'était une très très belle expérience dans le sens où on voyait comment Tao aidait la population dans les îles. C'était pas juste amener des touristes à voir ça, parce qu'une partie, en fait, une grosse partie du budget, si tu veux, retourne pour aider les gens dans l'île à travers la fondation. Et donc nous, pour notre équipe a fait exactement ça, on a fait une donation directement aussi, qui a été plus tard utilisée pour enseigner les femmes à travers un workshop et un training de comment faire des massages pour les spas dans les hôtels de la région, en fait.
D'accord. Et alors, décris-nous aussi un petit peu ce qu'on voit, parce que, bon, on avait déjà parlé un peu de Palawan dans le podcast, mais c'est comme des paysages d'îles assez fabuleux. Souvent, les Philippines sont citées dans les plus belles plages d'Asie, c'est souvent les Philippines qui arrivent en premier, hein, enfin, en tout cas, le top 3. Donc, explique-nous aussi un petit peu ce qu'on y voit. On reviendra un petit peu après à Tao, mais parle-nous quand même de... Tu disais, voilà, chaque soir, on s'arrêtait sur une île différente. Comment étaient les lieux? Qu'est-ce qu'on pouvait y voir là-bas?
Alors, c'était souvent des îles complètement désertes, tu sais, donc il n'y avait vraiment personne, à part peut-être 2 ou 3 personnes de Tao qui nous attendaient à préparer le dîner. Ils avaient certainement travaillé, je pense, toute la journée pour préparer notre arrivée. Et en fait, on a tous dormi dans des petites huttes, si tu veux. Et c'est marrant parce qu'ils ont une manière de construire les huttes qui peuvent être recyclées, parce que souvent, ils ont des typhons aussi dans ces régions-là. Et si les huttes sont ancrées, si tu veux, dans la terre, c'est souvent déchiré pendant les typhons. Mais ils ont construit un type de hutte qui s'appelle les tukas, qui, au fil des saisons, quand il y a des grands typhons et des grands vents, ont tendance à rouler, si tu veux, avec le vent, et puis peuvent être après repris et reportés et remis en place dans les camps. Donc c'est très très malin. Ils les construisent aussi d'une manière aérodynamique, tu sais, pour que le vent le détruise pas tout de suite. Donc on arrivait dans des îles, bien sûr, c'était des îles de sable blanc, des cocotiers partout, tu peux imaginer, c'est exactement ce que tu peux penser, espérer voir dans les îles. L'eau claire est transparente. Les douches, c'était dans les petites rivières. On avait des douches donc extérieures, juste dans les rivières. S'il y avait de l'eau, parce que pas toutes les îles avaient de l'eau fraîche aussi. Donc ça, si on avait de la chance d'avoir de l'eau fraîche, on savait qu'on pouvait se doucher, etc. Avec des petits bols, des petites noix de coco, si tu veux.
D'accord. Et donc, tout est naturel, l'empreinte écologique est proche du zéro, j'imagine. Parce que Tao, moi j'en avais entendu parler, je crois que ça fait une dizaine d'années que ça existe. Et il y a quelques années, enfin pas mal de temps de ça, ils avaient mis une vidéo sur Internet qui, je me rappelle, avait fait un buzz, parce que j'en avais entendu parler comme ça. Et en fait, on voyait que c'est une vraie expédition, c'est une vraie aventure qui n'est pas pour tout le monde, parce qu'il faut être prêt à vivre de plus simplement du monde parfois. Explique-nous un petit peu les différentes aventures que l'expédition propose, parce qu'il y a des expériences, je crois, un petit peu d'exploration. Dans des grottes, des choses comme ça. Donc explique-nous un petit peu ce qu'on y fait.
Souvent, d'ailleurs on a fait ça nous-mêmes, j'ai oublié de dire que souvent on s'arrêtait et justement on visite des grottes et je pense qu'ils offrent ça avec plusieurs de leurs voyages parce que c'est vrai qu'ils en ont plusieurs dans différentes parties de Palawan. Mais comme je te disais, le Palau, il n'y en a qu'un. Donc même avec le Palau, on s'arrêtait, on visitait des grottes qui avaient l'air vraiment complètement préhistoriques parce que c'est vraiment aussi un endroit, si tu veux, c'est un UNESCO World Heritage Site, tu sais, Palawan. Donc il y a vraiment des vues incroyables. Tu te croirais dans le Jurassic Park, tu sais. Donc on visitait des grottes. Il y a la possibilité d'aller un peu plus profond dans les îles et de faire du trekking, si tu veux, vraiment visiter l'intérieur de l'île. Et c'est intéressant parce que Tao a justement créé une nouvelle expédition au nord des Philippines, qui est une autre région, donc près de Baguio. Et ils viennent juste de lancer ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien amener une équipe de féminines pour ce voyage. Et ça entraîne en fait les gens juste tout au nord des Philippines pour voir les terrasses de riz. Et donc ça, c'est aussi, je pense, une très très belle expérience. J'ai jamais fait ça encore.
Oui, parce que le nord des Philippines est connu pour ses terrasses en étage. Hein.
Tout à fait. C'est un autre UNESCO World Heritage Site.
D'accord. Et alors, par rapport à Up on Earth et au groupe de femmes qui t'ont accompagné pour cette expédition, quelle a été votre contribution dans cette région-là de Palawan?
Donc en fait, comme je te disais, une des fondations qu'on a visitées et qu'on a soutenues et levé des fonds pour, c'était donc cette fondation qui s'appelle le Tao Kalahi Foundation, qui fait partie de Tao, parce que en fait, les fondateurs de Tao, ils ont absolument pour mission d'aider les gens dans cette région-là. Et donc en fait, on a visité, on a passé toute une journée en fait avec eux dans la fondation à apprendre comment ils aident les femmes à travers des différents programmes qu'ils ont, pas seulement avec l'agriculture, mais aussi donc avec d'autres activités comme le tissage. Ils ont aussi tout un programme pour créer des produits organiques comme le shampoing, etc. Donc ils ont énormément de programmes en place. Donc nos fonds sont allés pour soutenir leur fondation qui était déjà en place depuis presque 10 ans. C'est une fondation qui marche très bien et qui est vraiment en partenariat avec la partie touristique, en fait. Donc, c'est vraiment sustainable tourism tout le long, parce que chaque personne qui vient et qui vient avec Tao, en fait, une partie de leur contribution, une partie du coût du voyage va directement à cette fondation. On a amené un réalisateur aussi, et donc on a fait un petit film que je partagerai avec toi peut-être certainement après le podcast sur notre expérience là-bas. Et en fait, ce qu'ils nous ont demandé de faire, c'est de parler de Tao. C'était leur manière de demander de l'aide, c'est de parler bouche à oreille et à travers ton podcast. J'espère que beaucoup de gens vont essayer de découvrir cet endroit des Philippines et aussi de voir s'ils peuvent faire un voyage avec Tao, parce que c'est vraiment moi, j'ai passé beaucoup de temps dans plusieurs endroits aux Philippines et j'avoue que c'était une des expériences les plus authentiques que j'ai jamais eues aux Philippines.
Avec grand plaisir. Je mettrai de toute façon le lien de la vidéo directement sur le site du podcast. Comme ça, les gens qui sont intéressés, je crois que je l'ai déjà vu de toute façon. Je crois qu'on te voit dedans, tu parles aussi un petit peu. Donc, les gens pourront aller voir ça. Alors, c'est une question plus générale, mais qu'est-ce que toi, ces voyages à but caritatif et aussi, quand même, exploration, aventure, t'apportent et apportent à ton groupe qui vient avec toi?
Alors, une des principales avantages, si tu veux, de cette expérience, non seulement nous soutenons donc des organisations caritatives dans certains pays, mais pour moi, une grande partie du plaisir, si tu veux, c'est d'amener avec moi une équipe de femmes. Souvent, ce sont des femmes qui ont entre 22 et même jusqu'à 60 ans. De toute nationalité, de toutes différentes carrières. Et en fait, cette camaraderie que nous avons entre femmes se construit même avant le voyage. Donc, on passe beaucoup de temps ensemble. Et même si les femmes sont dans d'autres pays, on communique à travers un petit WhatsApp group, en se préparant avec notre équipement, en partageant des articles sur le pays qu'on va visiter ensemble, en se donnant des conseils pour le fundraising. Parce que souvent, je demande aux femmes de lever des fonds, même avant le voyage, à travers leurs contacts et leurs amis. Et donc, c'est une expérience qui commence quelques mois avant le voyage. Et pour moi, j'ai vraiment appris à apprécier ce moment qui était aussi important que l'expédition en elle-même. Parce que c'est un moment où on commence à se connaître et quand on commence à imaginer le voyage, c'est une préparation physique, mentale, parce qu'on s'entraîne aussi souvent selon l'expédition qu'on va faire. Si c'est un trek en montagne à haute altitude ou si c'est un voyage en mer ou si c'est du surfing ou du stand-up paddleboard, on s'entraîne et on utilise ces moments pour se connaître et se retrouver. Et pour moi, donc, en voyant et après passant bien sûr cette expédition ensemble, se connaissant, de temps en temps nous avons des moments difficiles, des moments où on rit, où on est heureuse et on rencontre beaucoup de gens qui nous ouvrent les yeux pour nous montrant leur manière de vivre qui est tellement différente de la nôtre. Donc toute cette expérience pour moi est un des plus grands plaisirs que j'ai à travailler avec Women in Mission et Her Planet Earth, et en voyant aussi une croissance de confiance en soi dans mon équipe, en fait. Parce que je trouve que quand on se force à faire ces voyages magnifiques dans des endroits tellement différents et qu'on essaie de lever des fonds pour une bonne cause comme ça, je pense que quelque part ça nous apporte tellement plus qu'on réalise. On est fiers de ce challenge qu'on prend en charge. On est content des amitiés qu'on fait, qu'on forge dans une équipe. Et je pense que c'est impossible de donner un prix et calculer ce plaisir qu'on ressent vraiment à l'intérieur quand on embarque dans ce type d'expédition.
Ouais, non, c'est vraiment très intéressant et je suis content en plus parce que dans le podcast, bon, on parle beaucoup d'aventures, de découvertes, etc. Mais on n'a pas encore trop mis le volet caritatif et voilà, give back, comme on dit, donc rendre aux populations, en tout cas contribuer à voilà, venir en aide aux gens qui sont un peu plus démunis que nous. Et je suis content d'avoir pu en parler avec toi aujourd'hui. Et si on est une femme et qu'on écoute sur la route de l'Asie en ce moment et qu'on est intéressé, est-ce qu'on peut rejoindre Planet Earth? Comment ça se passe? Où c'est qu'on peut te retrouver et suivre tout ça?
Alors, c'est très facile. On a un website, un site web, donc ils peuvent nous retrouver dessus. Tous les contacts sont listés. Donc, c'est herplanetearth.com. On est bien sûr sur Instagram, Facebook. Il suffit de nous envoyer un petit message et on partagera bien sûr les prochaines expéditions. Là, lundi, je pars au Vietnam avec une équipe de 10.
Ah, c'est intéressant. Alors, parle-nous un petit peu de ce que tu vas faire là-bas.
Oui, alors c'est une très très belle expédition, je suis très excitée en fait. Et nous allons donc traverser la plus grande cave du monde, et c'est un endroit qui s'appelle Son Dung. C'est entre Hanoï et Ho Chi Minh, mais plutôt à l'intérieur du Vietnam, pas sur le côté de la côte. Et donc c'est une très 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 grande cave qui a seulement été ouverte en 2003, je crois, et c'est très limité en fait. Ils peuvent seulement 10 personnes par jour ont le droit d'entrer et traverser cette cave, et en plus des 10 personnes, il faut être soutenu par une équipe de 25 guides, des gens qui amènent notre nourriture, porteurs, etc. Donc c'est une grosse expédition en fait. On sera donc 35 personnes à voyager pendant 5 jours à travers cette cave, et c'est une combinaison de trek, de rock climbing aussi, parce qu'on doit, c'est du canyoning aussi, du kayak à travers des caves. On aura les pieds dans l'eau pendant 5 jours, je crois. et c'est quelque chose qui n'a pas été fait très souvent. Quelqu'un m'a dit qu'il y a moins de personnes qui ont traversé cette cave que de personnes qui ont été au sommet de l'Everest. Donc j'ai très hâte de retrouver l'équipe pour ça. Et nous partons donc lundi matin.
Wow, bah c'est vraiment très bientôt. Bah c'est une grotte dont on a beaucoup entendu parler parce qu'elle a été découverte, comme tu dis, il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus combien d'étages, on peut rentrer un immeuble de, je ne sais plus combien d'étages dedans, mais c'est un truc assez astronomique.
En fait, c'est tellement grand qu'on peut on peut voler un Airbus dedans. Voilà, donc c'est assez particulier. Et à la fin, donc, quand on sort de la cave le dernier jour, je crois que c'est le cinquième jour, il y a un mur de 90 mètres qu'on doit donc gravir, rock climb, etc., pour sortir de la cave. Ça s'appelle The Great Wall of Vietnam.
Waouh, bon, ça, c'est passionnant. Bah, écoute, tout ça, c'est extrêmement intéressant et je suis content qu'on ait pu parler d'aventure responsable avec toi aujourd'hui parce que c'est vraiment ce que tu fais, ce que tu proposes et ce autour de quoi tu fédères toutes ces femmes qui partent avec toi en expédition. Là, on a parlé que de l'Asie parce que bah, on est sur les routes de l'Asie, mais si je parlais aussi des trips que tu as fait avec Women on a Mission, vous êtes parti en Iran, en Jordanie, en Mongolie, bah, en Antarctique, tu en as parlé, au Népal, je ne sais pas si j'en oublie, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de voyages, d'expéditions qui sont organisées chaque année. Moi, je me fais un plaisir de vous suivre à chaque fois sur Internet. J'invite tous les auditeurs à vous suivre et pourquoi pas à vous rejoindre, aider les causes que tu soutiens. Christine, je te remercie énormément et puis à bientôt à Singapour et puis je te laisse le mot de la fin pour conclure.
Merci infiniment Romain, c'est un vrai plaisir de parler, de raconter un peu notre histoire avec Women on a Mission and Her Planet Earth et j'espère qu'on rencontrera des femmes à travers ton podcast qui viendront se rejoindre et viendront en expédition avec nous. Merci.
Nous voilà au bout de cette interview avec Christine sur ses récentes aventures responsables à Siargao et Palawan, un type d'action et de voyage que je cautionne bien sûr particulièrement. Et je crois que ça nous emmène tous à réfléchir sur notre façon de voyager, comment ne pas laisser d'effets négatifs sur les peuples et l'environnement et comment même contribuer afin que les conditions de vie s'améliorent après notre passage. Alors bien sûr, le tourisme en lui-même, c'est un moyen de le faire puisqu'on contribue à l'économie. Mais on a pu voir avec Christine qu'il est possible d'aller encore plus loin. Et si le podcast peut aider à véhiculer le message, eh bien j'en suis très content. Et je remercie Christine pour sa participation. Je salue vraiment ses actions avec Her Planet Earth, sans oublier Valérie Boffy, bien sûr, avec Women on a Mission, qu'elle a cofondée avec Christine, et dont la prochaine aventure, ça a été évoqué rapidement, se déroulera à l'automne 2019 en Papouasie indonésienne, avec comme guide notre Thierry Robinet national. Donc si vous êtes une femme et que l'aventure et la cause humanitaire vous intéressent, n'hésitez pas à contacter Christine. Le moyen de le faire, ainsi que les notes de cet épisode, sont à retrouver sur mon site, sur lesroutesdelasie.com/64. Et puis une autre belle cause, c'est de m'aider à développer ce podcast encore et toujours en contribuant à ma campagne de financement participatif sur Tipeee. Chaque petit soutien compte, même à partir d'un euro par épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien en description ou aller sur mon site, sur lesroutesdelasie.com, pour faire cette démarche. Et un grand merci si vous l'avez déjà fait ou allez le faire prochainement. Une autre manière de m'aider, gratuite et très rapide, c'est comme vous le savez, de laisser un avis et une note sur la page iTunes du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais citer WattWatt qui a mis 5 étoiles en 10 ans. Enfin, un podcast qui fait voyager. Merci, toujours un plaisir de vous écouter et réécouter. Vive Romain et vive Thierry aussi. Fin du commentaire. Eh bien, écoute, merci pour ces gentils mots. Je transmets aussi à Thierry que l'on va retrouver bien sûr dans le podcast très bientôt. Mais pour le prochain épisode, je vous proposerai un tout autre type d'aventure, pas encore abordé dans le podcast, et pas avec un, mais deux invités. Voilà, j'en dis pas plus, et je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci pour votre écoute, et excellent voyage en Asie.